Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire, là.
C'est vraiment un avis, ce film.
Vous voyez, c'est tout à fait bouleversé, Philippe.
Cinéma ! Cinéma !
Vous ne trouvez pas ce film formidable ? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde !
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel.
Absolument.
Tous les jours, on en a plein les yeux. T'es là, ouf.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor, et plus précisément en ce beau mois de mai, le comptoir du Festival de Cannes, puisque l'événement est couvert par vos chroniqueuses et chroniqueurs préférés. Et ce soir, au studio de Fortune, on est avec Mélusine. Mélusine, bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va, Mélusine ?
Ça va. Là, on est au milieu de ma première semaine, de ma seule semaine à Cannes. Et donc, on va vous parler de deux films très différents, si je ne m'abuse.
Deux films aussi qu'on a appréciés de façon inégale.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, au programme, donc, on a deux films pour le prix d'un et surtout un focus, volontaire ou non, sous le signe du mélodrame, avec deux films en compétition officielle, à savoir l'un des films paillettes, si je puis dire, de la sélection The History of Sound d'Oliver Hermanus, porté par le duo hollywoodien Paul Mescal et Josh O'Connor, et en deuxième partie d'émission, le nouveau film du dano-norvégien Joachim Trier, 4 ans après Julien 12 chapitres, à savoir Sentimental Value. Je te propose, Mélusine, de commencer par The History of Sound, qu'on a vu avant Sentimental Value. Un titre qui n'a pas froid aux yeux et qui vend beaucoup. Nouvelle réalisation du Sud-Africain Oliver Hermanus, donc, que l'on connaissait pour Vivre, son remake décalqué du classique signé Akira Kurosawa et porté par Bill Nighy, ou pour Mophi un peu plus tôt, un film de guerre sur l'Afrique du Sud des années 80. Un passif en demi-teinte donc pour un réalisateur abonné au Grand Festival depuis 2011, mine de rien, notamment Venise et Cannes en fait, qui revient cette année avec donc The History of Sound, un drame et une romance gay mettant en scène l'histoire de deux étudiants en musicologie du conservatoire de Boston, à peu près entre 1917 et 1921. À savoir donc Lionel, interprété par Paul Mescal, et David, interprété par Josh O'Connor. Nos deux tourtereaux se rencontrent dans un bar, se réveillent dans le lit de David, et nouent un amour qui se veut fusionnel. Problème, David est envoyé outre-Atlantique faire la guerre, et même si les deux se retrouvent après ça le temps d'une expédition pour enregistrer sur des cylindres Edison des chansons populaires dans les campagnes du nord-est des États-Unis, la séparation entre les deux est actée, Lionel traçant sa vie de son côté sans nouvelles de David. Alors, The History of Sound, c'est compliqué, on va pas se mentir. Après Alpha en début de semaine, c'est sans doute la plus grosse douche critique de ce début de festival, car il faut dire que le public en attendait beaucoup, notamment de par son duo d'acteurs qui se hisse toujours plus haut dans le cinéma américain de ces dernières années. Paul Mescal s'est en fait remarquer l'année dernière pour Gladiator 2, rien que ça, et All of Us Strangers, sans compter qu'il reste le comédien de la série Normal People, qui avait son public, et du film After Sun, qui a aussi beaucoup marqué les esprits. Quand Josh O'Connor, de son côté, est fraîchement sorti du Challengers de Luca Guadagnino et de la Chimera d'Alice Rohrwache, et est également en compétition cette année à Cannes pour un deuxième film, à savoir Le Kelly Reichardt, The Mastermind, dont on aura l'occasion de reparler en temps venu. Autant vous dire tout de suite, moi j'ai pas aimé ce History of Sound, mais alors pas du tout, pour tout un tas de raisons, car même si je me suis laissé attendrir par cette histoire sympathique et tragique d'un couple qui se perd à force de se chercher, et dont ne restent que des sons en guise de souvenirs, je trouve le film d'Oliver Hermanus assez quelconque et oubliable pour ne pas dire plus, il me laisse poliment de marbre. De toutes les promesses faites par le film, aucune n'est vraiment tenue. De cette histoire du son amenée par le titre, et c'est pas moi qui ai décidé d'ajouter un « the » et des majuscules au mot, c'est bien le film, et corroboré par la première réplique du film qui est prononcée par Lionel Paul Mescal en voix off sur la réception synesthésique du son, de tout ça on n'aura rien, et quand je dis rien, c'est vraiment rien. La synesthésie, ce ne sera jamais un sujet ni pour le personnage de Lionel, ni pour Oliver Amanus, et donc pour nous les spectateurs. L'histoire du son, du titre, vaguement une tentative de sauvegarder, de mettre en lumière quelques chansons et traditions musicales populaires américaines, mais pas plus. Surtout que ces chansons, en fait, elles se ressemblent toutes et elles sont finalement assez laissées en arrière-plan. Et de la romance fusionnelle promise et assénée entre Lionel et David, il faut voir la manière avec laquelle les personnages sont chacun dépeints comme hantés par l'absence de l'autre, et on n'aura pas grand-chose non plus. Quelques regards, quelques baisers, quelques nuits passées ensemble tout au plus, mais pas grand-chose. Pas d'échange outre mesure, ni de caractérisation poussée. C'en est à se demander si la relation entre les deux personnages n'en devient pas muséifiée, figée dans la cire des cylindres Edison qu'ils utilisent, comme un détail de l'histoire, au même titre que la musique américaine à laquelle le film prétend s'intéresser. Or, à force de réifier et de figer autant les choses qu'ils représentent, on a presque l'impression que le film se fétichise, se complaît à les représenter dans une sobriété fantasmée, qui ne semble rien d'autre qu'une timidité, sinon plus, à l'égard de ces sujets. Et pour couronner le tout, ce History of Sound est sans doute le film le moins mis en scène que j'ai vu depuis le début du festival. Mmh. De ses choix de cadrage à ceux de découpage et de montage, rien ne dépasse, tout est lisse au possible et au final impersonnel et fade, en écho au traitement thématique que j'évoquais précédemment. Au final de ce History of Sound, j'avoue que je ne retiendrai sans doute que la performance fantomatique inspirée et vraiment tragique pour le coup de Josh O'Connor, et peut-être aussi l'épilogue du film marqué par de belles idées bien que toujours maladroit. Alors j'avoue avoir beaucoup tapé sur le film, mais surtout parce qu'il est en compétition en fait, là où à mon sens beaucoup d'autres films l'auraient mérité davantage. Mais toi Mélusine, toi qui as pu découvrir le film en première presse mondiale mercredi, qu'en as-tu pensé ?
La qualité est aux abonnés absents et Josh O'Connor est abonné à la mauvaise qualité visiblement. C'est un peu tout ce que j'ai à dire. Ce film, alors moi j'en attendais quand même quelque chose parce qu'on a déjà effectivement The History of Sound, donc un espèce de gros poncif qui nous saute aux yeux quand on lit la liste des films en compétition, d'autant plus que c'était une comédie musicale, enfin un film musical, donc c'est vrai que j'étais curieuse de voir ce qu'il allait en faire. Deux acteurs, soit au nom irlandais, soit irlandais, donc ça m'intéresse, mais effectivement j'ai l'impression que Paul Mescal et Josh O'Connor sont abonnés à des films assez médiocres, finalement. Donc, et qu'en plus, le réalisateur choisit de les mettre en scène dans une espèce de romance, dans une romance gay, en fait, tout simplement, mais ne représente jamais la romance, ne représente jamais l'éros, la sexualité, la sensualité. Tout est très lisse, tout est très sage, exactement comme leur académie de musique de laquelle ils s'extirpent. On s'attend à un moment donné à une espèce de road trip, endiablé en quête des chansons du American Songbook, mais en fait il n'en est rien. Et aussi il faut dire que musicalement parlant c'est très mauvais et que Paul Mescal, je suis désolée, ne sait pas chanter. Donc il y a un peu, ça coche un peu toutes les cases d'une certaine médiocrité, parce que en fait ce qui est d'autant plus gênant dans ce film c'est que ce n'est pas raté, c'est juste mauvais en fait. Il n'y a pas de tentative de représenter quelque chose, il n'y a pas de tentative au niveau de l'image, puisqu'on est dans cette espèce de palette marronasse, un peu froide, dans un montage avec une voix off au début qui est on ne peut plus pontifiante.
Surtout qu'il va nulle part la voix.
Oui, c'est ça en fait. On attend une espèce de révélation d'un génie, d'une espèce de Van Gogh, de la musique, synesthète, machin, il n'y a pas de ça. Et la fin, moi j'avoue qu'elle m'a déçue aussi, dans le sens où, sans trop en dire, cette espèce de retour à une forme de réalité, à une forme de presque de documentaire ou de réalisme un peu moins romancé, moi ne m'a pas spécialement touchée, dans le sens où elle est assez attendue et dans le sens où la médiocrité en fait du film à cette médiocrité-là correspond à la médiocrité de ce héros en fait qui n'est pas grand monde, pas grand chose. Mais peut-être que c'est ce qu'il a voulu faire, mais en tout cas, moi, c'est vrai que je n'ai ressenti aucune émotion. Et que ça me dérange. Si un film ne me dérange pas, justement, et s'il me laisse indifférente, s'il me laisse lisse, voire qu'il m'ennuie sur juste 1h50, c'est que vraiment, en fait, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien à sauver.
Ouais, surtout qu'en plus, pour le coup, ressentir aucune émotion devant un mélodrame, c'est aussi un peu un comble, quand même. Mais c'est vrai que moi je suis globalement d'accord avec toi, et puis comme j'ai dit, moi c'est surtout vraiment la réalisation qui m'a déçu, c'est impersonnel au possible
Sachant qu'il y a des mélodrames qui me plaisent. Hein, bah, c'est pas,
oui, voilà. Et puis de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler avec Sentimental Value.
Et même Alpha qu'on a vu avant, Alpha, ça oui, c'était, qu'on a vu. C'était sur le ton du mélodrame, et pour le coup, j'ai trouvé qu'il y avait de l'émotion, qu'il y avait du risque en fait.
Oui, oui, c'est ça. Et c'est vrai que là, finalement, on sort jamais vraiment des sentiers battus. Et quand je dis que on sort jamais vraiment des sentiers battus, c'est que les sentiers sont même plus balisés. C'est vraiment. Il y a des murailles autour, quoi. Mais c'est clair. Et puis moi, je trouve qu'en plus, même dans la structure du film, comme je l'ai dit en faisant le résumé, à un moment, bon, il s'avère que les deux personnages, par la force des choses, se retrouvent séparés. Et nous, du coup, on se retrouve à suivre uniquement le personnage de Paul Mescal. Et en fait, là-dedans, il y a des passages entiers où tu sais pas pourquoi c'est là. En fait, c'est là pour remplir la durée du film. Mais il a pas l'air spécialement malheureux. Sa romance avec Josh O'Connor est mise de côté, et en même temps le côté personnage qui devient une figure connue de la musique, de la musicologie, etc. En fait, le réal semble en avoir pas grand chose à foutre non plus.
Oui, alors qu'en fait c'est censé être le... En fait, on comprend pas très bien quel est l'enjeu du film. Si c'est le côté romantique, dans ce cas, foutez-nous des scènes de sexe, voilà, un peu plus d'éros, ou en tout cas de passion. Et si le propos du film c'est sound, dans ce cas, on aimerait quelque chose de plus historique, plus sourcé, qui suive en fait, que ce soit ça qui inspire la trame de l'histoire finalement. Mmh. Et on n'a ni l'un ni l'autre en fait, on patauge dans une espèce d'entre-deux très sage, où l'un meuble l'autre quelque part, et donc on finit par s'ennuyer parce qu'on ne sait plus vraiment sur quel pied danser.
Ouais, et puis en plus même, depuis tout à l'heure, tu vois, tu dis oui, c'est vrai que même sur la romance, on a quelque chose de très en retrait, de très pudique dans un sens, pour pas dire puritain, et que finalement on n'a pas du tout ce qui est désir ou sexualité.
Ni mystérieux, parce qu'on pourrait rien nous montrer et nous donner envie de savoir, mais en fait, il n'y a pas de mystère, quoi.
C'est là où j'allais, c'est-à-dire qu'en fait, même, le film aurait pu se dire, c'est, je sais pas, une espèce de romance très douce, où effectivement on choisit de pas forcément montrer la sexualité et tout, mais c'est juste que même au-delà de ça, le film ne montre pas cette romance-là. Oui. C'est-à-dire qu'on a assez peu de scènes entre Josh O'Connor et Paul Mescal, et en fait, si on enlevait les quelques scènes où on les voit s'embrasser ou dormir ensemble de façon fugace, on nous dirait que ce serait juste de bons amis qui font une balade à la campagne.
Ce serait une situation d'énonciation aussi, ce serait juste un point de départ. Mais moi, c'est vraiment une petite histoire.
Et alors moi c'est marrant parce que du coup sur la question de l'histoire, en plus ça me faisait penser à un film qui a un titre similaire mais qui a absolument rien à voir, c'est A History of Violence de Cronenberg, qui justement fait le choix de pas s'appeler The History of Violence mais A History of Violence, et qui part de quelque chose de l'ordre du fait divers pour toucher quelque chose de plus vaste. Et je pense que c'est cette humilité-là dont manque le film. Oui. C'est vraiment incompréhensible qu'il laisse cette espèce de prétention au niveau du titre et au niveau de la toute première séquence, où en plus on a une espèce de mise en scène un peu un peu repêchée de chez Terrence Malick, en mode la nature, quelque chose de quasi animiste, et puis ce personnage d'enfant, donc qui est le personnage de Paul Mescal, qui en plus en voix off nous dit qu'il a des dons synesthésiques, qu'il ressent tout, que le son ce n'est pas que du son, mais que c'est aussi du goût, du toucher.
Oui, franchement, ce début il donne envie. Hein.
T'as l'impression que tu vas partir sur un super trip poétique et romantique, et au final t'as vraiment juste un truc fadasse, sans vraiment de sentiments qui pointent, etc. Sans tout le délire promis sur le son, et c'est vrai qu'au final on s'ennuie un peu, quoi. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou pas ?
Non, pour moi, c'est tout pour Rescue.
Écoute, je propose qu'on n'insiste pas plus, qu'on ne tire pas plus sur l'ambulance, sur ce pauvre History of Sound, qui, personnellement, pour moi, est un des films que j'ai moins aimé du festival. Et je ne suis pas le seul, parce que de toute façon, le film a reçu un accueil global assez froid. Voilà donc pour The History of Sound d'Oliver Hermanus, qui, comme vous l'aurez sans doute compris, nous aura laissé sur le côté. Et je vous propose maintenant de passer à un autre mélodrame, passé juste après d'ailleurs dans le planning de la compétition, et tout aussi attendu, mais autrement plus réussi à nos yeux, pour mettre directement les pieds dans le plat, à savoir le nouveau film donc de Joachim Trier, The Sentimental Value. 4 ans après Julie en 12 chapitres, qui avait conquis un large public à la fois sur la croisette et en salle après, on retrouve le réalisateur dano-norvégien et sa comédienne star Renate Rensve en compagnie d'un Stellan Skarsgård tout juste échappé d'Hollywood, mais également d'Inga Ibstotter Lilias, avec une prononciation hasardeuse, mais aussi, surprise, d'Ellie Fanning, elle aussi échappée d'Hollywood. Dans Sentimental Value, donc, on se retrouve face à un schéma choral où on suit le quotidien de deux sœurs, Renate Rensve et Inga Ibstotter Lilias, l'une actrice star au théâtre et l'autre historienne. Lorsqu'à la mort de leur mère, bah leur père, Stellan Skarsgård, donc, réalisateur acclamé dans le monde entier et qui s'était séparé de la famille bien des années auparavant, revient pour tourner un ultime film aux allures de catharsis familiale dans la maison familiale. Il demande pour cela à sa fille, Renate Rensve, donc, de jouer dedans, ce qu'elle refuse indignée, et il fait alors appel pour la remplacer à une actrice hollywoodienne rencontrée au festival de Deauville, à savoir Ellie Fanning. Tous ces individus essaieront donc d'abord chacun de leur côté et en se fuyant respectivement de recoller progressivement les morceaux de cette histoire commune, dans les rires, les larmes et les souvenirs, le tout sur fond de réalisation chaotique d'un film. Mélusine, on a eu l'occasion de voir ce Sentimental Value au lendemain de sa première. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Alors, j'ai trouvé que c'était un très beau film, je pense, dont le sujet est l'incommunicabilité, en fait. Au sens où donc on a ce père réalisateur sur la fin de carrière qui essaye, pour une raison obscure, hein, qui s'est séparé, qui n'a plus beaucoup de contact avec sa fille cadette, il me semble, donc Renate Rensve, et qui décide de faire un film pour ressouder la famille d'une certaine manière. Pour moi, c'est vraiment un film qui, certes, est un mélodrame en quelque sorte, mais qui joue sur vraiment l'insoutenable légèreté de la famille, au sens où vraiment les personnages ne se supportent pas, traversent des périodes dépressives ou de crise, comme on le voit dans d'autres films de Trier, dont Oslo, 31 août ou Julien 12 chapitres, qui est un peu le thème récurrent pour moi, cette légèreté du désespoir. Qu'est-ce qu'on fait quand on traverse une période de vie compliquée, pour pas beaucoup de raisons évidentes, parce que ça reste un drame bourgeois aussi, hein, c'est une actrice de théâtre, la maison familiale doit être vendue après la mort de la mère, mort de la mère qui est d'ailleurs racontée au tout début, vraiment par toute petite touche en fait.
Bon, on la voit quasiment
on
pas.
On la voit quasiment pas, on s'en rend à peine compte. Donc tout est vraiment fait avec une légèreté et je dirais même une délicatesse, dans le sens où pour le coup on a une mise en scène qui est pas du tout pontifiante, qui est vraiment en retrait, qui laisse les acteurs aussi dans le décor et qui travaille sur comment on communique ou pas dans un espace donné et comment on gère ses émotions dans un espace donné aussi qui est celui de la maison. Je pense que tu vas en parler, mais la première scène est absolument extraordinaire. Il y a donc deux scènes au tout début qui font un peu écho. La première, c'est une voix off pour le coup, il me semble du personnage ou d'une narratrice.
C'est celle de Renate Rensve,
ouais. De la narratrice donc, et du personnage principal, qui parle de sa maison et de la maison comme une entité, comme un être, une personne, un membre de la famille qui aurait vécu et traversé aussi toutes les crises de cette famille en séparation, de cette famille brisée par la séparation des parents. Et à cette scène écho la scène de théâtre où l'actrice, donc Renate Rensve de théâtre, a un blocage sous un dies irae vraiment tonitruant. Et il y a vraiment un jeu qui s'opère entre le fait qu'un des personnages dans la diégèse principale s'appelle Nora et elle, sa difficulté à jouer un personnage. Et on retrouve donc dans ce nom de Nora peut-être le nom du personnage principal d'une maison de poupées d'Ibsen, donc une pièce suédoise, dans laquelle une femme se décide de sortir, de s'émanciper justement de sa maison et de son foyer. Donc tout le rapport de la femme en l'occurrence, enfin du personnage à la maison, et donc au foyer, et donc à la famille, est remis en question sans cesse dans le film. Même la fin, sans trop en dire, est une espèce de mise en abîme aussi de la maison, en quelque sorte. Puisque la dernière scène se situe dans un décor de maison, j'en dirai pas plus. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment une subtilité de la part de Joachim Trier à filmer les rapports humains, les rapports familiaux. Et d'ailleurs, c'était un des thèmes les plus prégnants du festival. On l'a remarqué en voyant vraiment, en tout cas jusqu'ici, les thèmes prégnants sont ceux de la famille. Mais voilà, je trouve que Joachim Trier a vraiment su dépasser un petit peu aussi les différentes injonctions du dogme 95, qui par ailleurs est en train d'être renouvelé là cette année en 2025 par un nouveau manifeste qui a été publié il y a quelques jours à Cannes, c'est-à-dire tourner avec des acteurs locaux dans une unité de lieu, une unité de temps et une unité d'action, vraiment quasiment les règles de la tragédie racinienne, mais avec aussi une certaine liberté dans ses choix de mise en scène, et comme j'ai dit, dans une mise en scène qui cherche toujours l'ellipse, qui cherche toujours le moins pour dire plus, etc.
Bah écoute, je suis un peu plus d'accord parce que, alors moi j'avoue que je connaissais pas trop le cinéma de Joachim Trier, enfin de loin en tout cas. J'avais vu passer effectivement Julie en 12 chapitres, j'avais entendu vaguement parler d'Oslo 31 août, mais j'avais pas vu ces films-là et donc j'ai découvert ça avec Sentimental Value et ça a été un gros coup de cœur qui, j'avoue, ne cesse un peu de grandir dans ma mémoire. C'est simple, c'est aussi, je pense, parce que je l'ai vu juste après History of Sound.
La comparaison est difficile à tenir.
Ouais, parce qu'en fait, tout ce qu'on a pu reprocher à History of Sound tout à l'heure se retrouve, entre guillemets, balancé ou corrigé par ce qu'arrive à faire Joachim Trier dans son Sentimental Value, c'est-à-dire que tu parlais d'une mise en scène qui est discrète, en retrait, qui laisse la place à ses acteurs. Il ne faut surtout pas entendre ça comme une mise en scène...
paresseux en tout cas.
Ouais, c'est pas paresseux, c'est pas flemmard ou quoi. C'est pas qu'il n'y a pas de mise en scène, c'est tout le contraire. C'est qu'en fait, c'est une mise en scène qui est d'une précision absolue et qui, du coup, dans en fait, ses moindres gestes, même les plus discrets, vient créer quelque chose. Et tu mentionnais effectivement cette séquence d'ouverture qui, moi, en fait, m'a conquis, m'a emporté en fait, dès les premières minutes du film. Où en fait, pour compléter ce que tu as dit, la voix off qu'on entend du personnage de Nora, plus précisément, c'est une voix off du personnage de Nora quand elle est à l'école primaire, parce que en fait, un ou une de ses professeurs lui demande de faire une rédaction, mais une rédaction d'un point de vue non humain, je crois, ou un truc comme ça, enfin du point de vue de quelque chose de non humain, et a choisi de le faire du point de vue de sa maison, plus particulièrement parce qu'en fait, elle habite dans une maison où la famille est en train de se déchirer, parce qu'elle raconte aussi que ses parents sont en fait déjà en train de se disputer régulièrement, etc., et qu'il y a un divorce qui couve. Et rien que ce texte-là, en fait, lui envoie off sur un montage tout à fait particulier, et là aussi extrêmement précis, de plan de cette maison-là, permet de décaler d'un coup le point de vue de la mise en scène et d'entrer dans ce mélodrame-là en nous disant « voilà notre unité de lieu à nous, voilà là où tout va se jouer, où tout s'est déjà déchiré en fait, pendant l'ellipse qui va séparer ce temps de l'enfance-là du temps du présent qui est le temps du film. » Et ça nous dit, en fait, de la même manière, tout l'enjeu du film qui va être de comment on va pouvoir recoller les liens restants dans cette famille-là. Donc déjà, il y a ça. Mais aussi, en termes de mise en scène, pour rester là-dessus, il y a toute la manière que Joachim Trier a de filmer ses actrices et ses acteurs, d'utiliser les gros plans et les différentes échelles de gros plans, en fait, que ce soit sur les visages ou plus particulièrement sur les yeux, sur les bouches, pour capter toutes les subtilités, en fait, du jeu de ces acteurs et actrices, en particulier donc Renate Rensve et Stellan Skarsgård, on l'avait peut-être un peu oublié, en fait, avec ses rôles dans des grosses productions américaines, même s'il n'était pas forcément mauvais dans Les Dunes de Denis Villeneuve. Mais là, c'est quand même un rôle et une composition d'une toute autre épaisseur.
Oui, qui ressemble, en fait, à ses premiers rôles, genre dans Breaking the Waves,
complètement.
De Lars von Trier.
Et là, je le trouve vraiment émouvant et d'une force complètement folle. Enfin, il y a une scène à ce titre-là, avant, en fait, que le personnage de Stellan Skarsgård revienne à Oslo et donc à cette maison familiale pour tourner son film. Il est au festival américain du film de Deauville, au festival du film américain de Deauville. Et en fait, il y a toute une scène où on le voit s'amuser avec le personnage d'Eli Fanning et ses proches sur la plage de Deauville, qui est à mi-chemin, en fait, entre la nuit et l'aube. C'est une espèce de... presque une nuit américaine, en fait, c'est assez marrant. Et c'est une séquence d'une beauté complètement folle, parce qu'il y a très peu de dialogue, juste des rires. Et en fait, on sent que dans ces rires, il y a tout un truc qui est en train de se jouer en profondeur, à la fois une tristesse chez le personnage de Stellan Skarsgård, et en même temps... peut-être l'idée qui germe de chez lui, qui se dit « Ah, je vais pouvoir en fait réaliser mon film peut-être si j'ai cette actrice. » Je sais pas, c'est une scène qui, comme tu disais, en fait, avec le moins, fait vraiment le plus, mais le plus du plus du plus. Et ouais, non, Sentimental Value, c'est vraiment un film très très fort. Et voilà, et en tout cas, c'est vrai que contrairement à History of Sound, il fait... pour le coup, il procure vraiment de l'émotion. C'est un mélodrame qui marche vraiment bien. Globalement, plus le film avance, plus c'est douloureux à la fois. Ça se lit sur le visage des acteurs et des actrices, mais aussi dans l'espèce de gravité, de lourdeur en fait, que prend la mise en scène. Mais pas une mauvaise lourdeur, mais juste on sent qu'elle prend un poids, qu'il y a quelque chose dans les plans qui s'alourdit. Et en même temps, comment dire, le film, il n'oublie pas non plus de rester un peu comique. Y a un gag vers le milieu du film où en fait, Stellan Skarsgård essaye de faire jouer une scène à Elle Fanning. En lui expliquant qu'en gros son personnage est censé se pendre, et il lui dit qu'en fait c'est comme ça que sa mère s'est pendue, que d'une façon très sordide, très grave, etc. Puis ensuite il sort de la pièce, il croise sa fille, donc Inga Ibsdotter Lilias, je crois, ou Renate Renzo, je sais plus, et puis il lui dit non, en fait, c'est juste un tabouret Ikea que j'ai acheté hier, un truc comme ça. Il y a une espèce de côté doux-amer qui est vraiment appréciable et qui permet aussi au mélodrame de fonctionner d'autant plus. Je sais pas si toi, t'as des trucs à rajouter.
Oui, simplement pour terminer sur la question du vraiment less is more, enfin de la dire moins pour dire plus, encore une fois. Je crois que beaucoup de critiques élaborent aussi là-dessus, mais effectivement, il y a quelque chose dans le film où on ne sait pas exactement quels sont les traumas des personnages. On en connaît certains. La mort de la mère, pour Stellan Skarsgård, c'est dit assez explicitement. Mais les rapports entre les personnages et les dynamiques conflictuelles, parfois, notamment Renata Reinsve et donc Stellan Skarsgård, on ne sait pas exactement de quel ressort il s'agit. Et on nous l'explique pas de manière didactique, en fait. Et ça, c'est assez appréciable parce que il y a vraiment une... On prend pas le spectateur pour un con, et il y a vraiment une intelligence émotionnelle qui est donnée au spectateur pour dire ces personnages sont tout comme nous, ont des traumas, parfois visibles, parfois non, et tout n'est pas forcément à expliquer, justement, selon un trauma très très fort, ou en tout cas, ce n'est pas verbalisé de cette manière-là. Donc ça, j'ai trouvé ça appréciable parce que combien de films ont besoin presque diégétiquement d'un trauma ou d'un événement perturbateur dans la vie d'un personnage pour lui donner de la consistance, tu vois.
Mais quand même, quand on dit d'un trauma, c'est-à-dire même pas juste un trauma dans le scénario ou dans le background des personnages, mais vraiment d'une scène de trauma, aussi, en fait. Ouais. Alors que là, c'est vrai que, par exemple, un de ces trucs-là qui peut ronger ou hanter les personnages, c'est aussi la question du couple, par exemple, parce que le personnage de Renata Renzo, elle est célibataire, il y a une histoire qui se noue de façon un peu bizarre, sans dire les choses, avec un collègue, un acteur, je crois, du théâtre. Oui. Et pendant ce temps-là, en fait, il y a le miroir de la famille de sa sœur, qui est vraiment le couple avec un gosse, enfin, ou deux, je ne sais plus, mais la famille bien établie. Et puis il y a un moment, du coup, où donc Nora, elle couche avec ce mec-là, et puis en fait, il y a juste la scène se passe le matin dans le lit, en gros. Et on voit qu'elle a un problème avec ça, qu'elle a du mal à se situer dans cette question-là. Mais c'est jamais développé outre mesure, on sait pas forcément d'où ça vient ou ce qui a pu se passer avant, et comme tu dis,
voilà. Et le regard le problématise pas non plus, exactement, au sens où au il écoute, en fait, presque. Il est dans une démarche vraiment empathique de voilà ce problème là voilà entre guillemets comment elle se ressent, mais il y a pas de pourquoi, il y a pas de monstration, et il y a un regard qui est très bienveillant, je trouve, de la part du réalisateur sur sur ses personnages.
J'aime beaucoup la manière dont tu le dis, genre d'une caméra qui paradoxalement est à l'écoute, c'est-à-dire qui regarde, mais entre guillemets pour laisser dire, et pas jamais de manière complaisante ou forcée ou quoi que ce soit, mais qui laisse se déployer les choses face à elle dans cette espèce de retrait, et en même temps un retrait qui est voulu, qui est précis, etc.
Ouais.
Et pour terminer, du coup, sur cette question, parce que tu le disais, sur cette question du less is more, il y a un truc qui le symbolise de façon systématique dans le film. C'est le fait qu'entre chaque séquence, il y a une ellipse au noir, que ce soit au son ou même à l'image.
C'est même un cut au noir, pas sûr que ce soit un fondu, c'est un cut au noir.
C'est possible que ce soit un cut, mais et qui en fait est vraiment fait un tranche dans la continuité du film, le rend un petit peu très, très séquencé. Mais,
et très pudique, en fait. C'est ouais, ce qu'on ne montre pas, peut-être.
C'est ça. Et donc, ouais, non, Sentimental Value, c'est vraiment une des très grosses réussites de cette compétition, à mes yeux, et puis au tien aussi, je pense.
Oui.
Et vraiment, juste un grand film, très, très bien fait. Une grande performance de ces acteurs et actrices. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter.
Non.
Eh ben écoute, moi j'ai peut-être quelque chose à rajouter parce que je me souviens de ce que je disais tout à l'heure. J'étais en train de parler de comment dire, du personnage de la sœur d'Inga Ipsdotter Lilias, et du fait que c'est un peu la comment dire ce qui permet au film de gagner, enfin du moins de gagner de façon explicite un côté social ou politique. C'est-à-dire que donc ce personnage de la sœur de Nora, elle est historienne, comme on a dit, mais justement, en fait, par rapport à ça, il y a tout un complexe par rapport à sa sœur, parce qu'on voit qu'elle est, comment dire, elle est moins connue, c'est pas une star.
Oui.
Comment dire, elle a un côté moins aisé à la fois financièrement, mais aussi moins libre, parce que du coup, même, enfin, toujours dans ce jeu d'opposition avec Nora qui est célibataire, oui. Qui a une vie assez libre, et elle qui est dans sa vie de famille très très cadrée. Bah, y a l'impression d'un personnage un peu dans un espèce de mal-être par rapport à sa position sociale, sa position de classe, mais aussi sa position sociale, juste position familiale, etc. La position, et qui est, enfin, cette position-là, en plus, elle est liée à la position de la sœur cadette ou Benjamin, en gros, quoi. Donc, y a un moi, je trouve ça vraiment intéressant, la façon dont Trier, du coup, avec ça, parce que c'est vraiment le truc qu'il explicite, en fait, il enlève son mélodrame et il le fait passer vers un mélodrame bourgeois, mais au sens de sur une classe bourgeoise, en gros.
Ouais.
Et plus précisément, la manière dont, du coup, en fait, il se sert de ces codes du mélodrame familial-là, presque, en fait, des codes de la tragédie à laquelle tu faisais référence, parce qu'il y a toutes ces histoires de... Enfin, c'est vraiment... comment dire, une espèce de tragédie familiale, quoi, même si ça se recolle progressivement, bah en fait, il y a vraiment quelque chose de rongé, en fait, tout le cadre très bourgeois, même l'imagerie bourgeoise, enfin, d'Oslo, de ces gens-là qui sont assez riches et tout, et dont, a priori, on se dirait, on va quand même pas passer 2 heures à les plaindre, ils ont quand même une vie pas mal. Et bah, l'idée de Trier, c'est de se dire, bah, je vais pas faire en sorte que vous ayez à les plaindre dans leurs conditions, mais je vais faire en sorte que leur situation personnelle, je sais pas, familiale, etc., enfin, le mélodrame, en fait, gagne et ronge tout ce cadre bourgeois. Et ça, je trouve ça assez passionnant, pour le coup.
Totalement d'accord avec toi.
Voilà. Voilà pour ce qui en est de ce Sentimental Value. Merci à toi, Mélusine, pour ce numéro, ce
merci
nouveau numéro du Comptoir du Cinéma et ce nouvel épisode, le 5e déjà, du Comptoir du Festival de Cannes. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode pour aborder la suite de la sélection. Comme d'habitude, ce sera disponible sur transistor.fr et sur toutes les plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien, partagez-nous, et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout, n'hésitez pas. Et bien écoutez, bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt sur les ondes de Transistor. Vive le cinéma, vive Cannes et vive Transistor.